maintenant? Où on va maintenant?
J'en sais rien, tu nous emmerdes.
N'empêche que... J'aimerais bien savoir où on va, comme ça. Simple curiosité.
Mais il t'a dit qu'il en savait rien, que tu l'emmerdais, alors...
Te fais pas de soucis, vieux. Dans la vie, tout s'arrange. Y'a jamais de vraie raison de se biler. Ils peuvent pas nous faire un trou au cul, on en a déjà un.
On va quand même pas rouler comme ça, droit devant, sans savoir où. Jusqu'à ce que le réservoir soit vide.
Pourquoi pas?
Les routes musicales sur Couleur FM.
Bonjour. Pour notre 7e numéro des routes musicales, nous restons aux États-Unis et nous allons nous poser la question aujourd'hui de savoir comment les États-Unis sont-ils devenus cette grande puissance mondiale que l'on connaît aujourd'hui et comment cette puissance s'est exercée de la fin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. En temps d'élection américaine, il est temps de se poser de la question de savoir qui va gouverner notre monde en novembre prochain. Alors, lors de la naissance en 1776, les États-Unis se sont constitués que de 13 colonies britanniques qui ont rompu avec la métropole au XVIIIe siècle. Avec l'entrée dans l'ère industrielle, les États-Unis prennent une place de plus en plus importante dans le monde qui leur permet même après la Première Guerre mondiale, d'influer déjà sur le marché économique du monde. De 1918 à 1945, les États-Unis hésitent à imposer leur domination sur le monde. Puis de 45 à 90, ils deviennent le leader du monde libre. Depuis 90, cette hyperpuissance américaine est toujours existante, on le voit bien encore aujourd'hui, mais elle est contestée. Je vous propose de prendre cette route musicale et nous commençons par Marcelli en 1918 avec Vive l'oncle Sam.
Pour la guerre, famille d'Angleterre, chantez le joyeux type Ferrari. La belle République, la grande Amérique, à son chant de victoire elle aussi. Tous ces soldats magnifiques viennent de lancer ce cri. Le plus joyeux refrain, c'est mon oncle Sam, Sam, Sam qui vient d'Amérique. Le plus grand citoyen, c'est mon oncle Sam, 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 il est sympathique. Plus grand républicain, c'est mon oncle Sam, 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 vive la République. Chantons avec entre eux, vive les Américains, Américains. À travers la ville, en chantant ses couplets entraînants, leur violence éflamme, et toutes les petites femmes, leur lance épaisée sont les suivants. La foule partout les acclame, est un air triomphant. Ouvre, prenne ce refrain, c'est mon oncle Sam, Sam, Sam qui vient d'Amérique, chanteur et musicien. Sam, 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 il est sympathique. Tout le long du chemin, c'est mon oncle Sam, 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 qui la République. Chantons avec entre eux, les Américains, Américains. À cette jeune armée, les nations alliées, on voit leur plus fraternel salut. Et tous nos approches, toujours rigolvoches, qui s'emparent de ces nouveaux poilus. À pas partir pour les boches, Guillaume de Foutu. Notre meilleur copain, c'est mon oncle Sam, 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 qui vient d'Amérique. La terreur des Germains, c'est mon oncle Sam, 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 qui est sympathique. La victoire de demain, c'est mon oncle Sam, 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 vive la République. Quand on va avec mon train, vive les Américains, Américains.
Le 6 avril 1917, le président démocrate Wilson fait entrer son pays dans la guerre pour répondre aux attaques des sous-marins allemands contre les navires américains. Mais aussi dans la pensée de bâtir, après la victoire, un nouvel ordre mondial fondé sur le droit, dans lequel les États-Unis joueraient un rôle majeur. Le 8 janvier 1918, il en expose les fondements en 14 points. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, la liberté de commerce, des mers, ça c'est une révolution, avec une diplomatie aussi franche et transparente, et la fameuse création d'une organisation internationale que l'on appelle la SDN, la Société des Nations, qui est chargée d'arbitrer les conflits. Et puis ensuite, cette nouvelle doctrine s'appuie sur l'idée que les États-Unis ont pour mission d'étendre au monde entier les principes qui ont fait leur fortune, c'est-à-dire le libéralisme économique et la démocratie. Donc en parallèle de ce bannissement de la guerre et de cette SDN, eh bien les États-Unis veulent diffuser le libéralisme économique et la démocratie. Donc ces idées que Wilson parvient à imposer à ses alliés européens inspirent largement le traité de Versailles, signé en 1919 avec l'Allemagne, qui façonne une nouvelle Europe et qui crée la SDN. Les États-Unis, en 1918, lorsque la Première Guerre mondiale se termine, l'économie, le commerce et la monnaie sont prospères, la flotte de guerre se hisse à la hauteur de la flotte britannique, et ils peuvent donc s'imposer comme une des premières puissances mondiales face à des Européens complètement affaiblis par la Première Guerre mondiale et par les destructions. Mais alors, le problème, c'est que le Sénat, majoritairement républicain, est fidèle à la traditionnelle doctrine Moreau, c'est-à-dire la doctrine Moreau qui favorise l'isolationnisme, c'est-à-dire seuls les États-Unis sont repliés sur eux-mêmes, refuse d'assumer les responsabilités mondiales qu'implique cette nouvelle position des États-Unis, et donc ne ratifie pas le traité de Versailles. Les États-Unis ne font donc pas partie de la SDN. La SDN va continuer à vivre jusqu'en 1936. Toutefois, elle est vide de sens le fait qu'il n'y ait pas les États-Unis à l'intérieur. Donc les États-Unis, en tout cas, ont posé les bases d'un monde de l'après-guerre, mais ne participent pas à celui-ci et préfèrent se replier sur eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle l'isolationnisme. Enfin, un isolationnisme en trompe-l'œil. En effet, entre les deux guerres, les États-Unis, les présidents républicains qui succèdent à Wilson, mènent une politique nationale de repli qui est illustrée par le slogan « American First », c'est-à-dire qu'on va mettre en place des quotas d'immigration. Nous en avons parlé au dernier numéro, mais les États-Unis sont un pays d'immigration, des mesures protectionnistes au niveau économique, et cet isolationnisme est plus apparent que réel. En effet, les États-Unis continuent d'intervenir dans le Pacifique, leur zone réservée, de dominer le continent américain. Ils ne se désintéressent pas des affaires européennes, attention. Ils réclament à la France et au Royaume-Uni d'abord les remboursements de toutes des dettes de guerre de la Première Guerre mondiale, et ils souhaitent très rapidement la réintégration de l'Allemagne dans le commerce mondial, qui est un principal client et qui est toujours le principal client des États-Unis, l'Allemagne, d'où le dernier voyage de Barack Obama avec Angela Merkel au mois d'avril. Donc aussi à partir de 1924, ils font pression sur la France par l'intermédiaire de très grands banquiers pour imposer un allègement des réparations allemandes par rapport à la France. Donc ils prêtent en même temps le dollar à l'Allemagne et puis ils diffusent le dollar petit à petit sur l'Europe entière. Donc cette diplomatie du dollar est particulièrement efficace et qui conduit à l'apaisement des tensions politiques en Europe. Mais voilà, en 1929, tout s'écroule.
Men walking along the railroad tracks, going someplace and there's no going back. Highway patrol choppers coming up over the ridge. Hot soup on a campfire in the bridge. Shelter line stretching round the corner. Welcome to the new world home. Sleeping in the car in the southwest. No home, no job, no peace, no rest. Well, the highway is alive tonight. But nobody's kidding nobody about where it goes. I'm sitting down here in the campfire line, searching for the ghost of time travel. He pulls a prayer book out of his sleeping bag. Preacher lights up a buddy and takes a drag, waiting for when the last shall be first and the first shall be last. In a cardboard box near the underpass, got a one-way ticket to the promised land. You got a hole in your belly and a gun in your hand, sleeping on a pillow of solid rock, breathing in the city going down. The highway is alive tonight. Where it's headed, everybody knows. I'm sitting down here in the campfire line, waiting on the ghost of time travel.
L'édifice économique américain s'écroule en 1929 avec le début de la grande crise économique. En 1995, Bruce Springsteen publie son 11e album et sort un single éponyme pour l'accompagner qui s'appelle The Ghost of Tom Joad, la chanson qu'on vient juste d'écouter. Alors, cette chanson, certes, elle est sortie en 1995, mais elle est dédiée au laissé-pour-compte des États-Unis, aux recalés du système, aux sans-abri, aux homeless, aux travailleurs pauvres et aux pauvres tout court. Hein. Dans les années 90, le nombre de pauvres est déjà à 14% de la population. Et en 1929, c'est 36 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et cette chanson de Springsteen est une évocation de cette grande misère au début du XXe siècle dans le pays le plus riche du monde. En effet, elle est celle du creusement des inégalités. Après 1929, les riches sont de plus en plus riches et les pauvres, eux, s'appauvrissent. Donc les investisseurs américains, en 1929, rapatrient leurs capitaux et c'est avec ce rapatriement de capitaux que la crise en Europe s'exporte. Élu en 1932, le président Roosevelt, bien que démocrate, est contraint de mener une politique très isolationniste que ses prédécesseurs. En effet, il a souvent été dit que les démocrates avaient une politique plus interventionniste et plus ouverte sur l'extérieur que les républicains. Et c'est le cas, il n'y a qu'à voir les élections actuelles. Donc face à la montée de ces tensions en Europe, le Congrès, malgré tout, entre 1935 et 1937, eh bien, malgré la crise et malgré cet isolationnisme, le Congrès américain vote des lois de neutralité qui interdit les ventes d'armes et de prêts aux pays de guerre avec la montée du nazisme en Allemagne. Roosevelt comprend toutefois que les États-Unis ne pourront rester à l'écart du conflit européen et que leur devoir est de soutenir les démocraties face aux dictatures. Dès novembre 1939, il convainc le Congrès d'autoriser la vente d'armes à la France et au Royaume-Uni à condition qu'ils payent comptant et qu'ils se chargent du transport, ce qu'on appelle le cash and carry. Mais ce n'est qu'après la défaite en France en 1940 et que l'opinion américaine, alors très pacifiste, eh bien, se retourne. La crise des années 30, si on résume, pousse les États-Unis à se tenir à l'écart des affaires du monde parce que règlent d'abord leurs affaires à eux. Et tout simplement, cet isolationnisme est remis en cause par la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, ce grand tournant où les Américains abordent ce conflit. Et on écoute Dr. Clayton. Dr. Clayton, Pearl Harbor Blues. Tout est dit. En le 7 décembre 1941, les États-Unis entrent en guerre à la suite de l'attaque surprise du Japon contre leur base militaire de Pearl Harbor à Hawaï. Leur engagement est total et Dr. Clayton, au lendemain de cette attaque, chante ce petit blues qui est représentatif d'une opinion publique américaine désormais prompte à accuser les Nippons américains de former, on dira, une cinquième, nous dit Dr. Clayton, une cinquième colonne prête à se retourner contre son pays d'accueil. Donc en fait, l'engagement est total pour les Américains entre 1941 et 1945. Il est industriel et économique. On l'appelle le Victory Program, qui mobilise le pays au service de l'effort de guerre. Donc des énormes quantités d'armements et de navires sont fabriqués à la Chine. Il est ensuite militaire. C'est le deuxième point. Les États-Unis doivent combattre sur deux fronts, hein, le Pacifique et l'Europe. On a trois grands débarquements, l'Afrique du Nord en 1942, l'Italie en 1943, la Normandie en 1944, qui permet à l'armée américaine de libérer l'Europe occidentale. La lutte contre le Japon est tout aussi intense, hein, mais une progression beaucoup plus lente, à l'est par le Pacifique et au sud par les Philippines. On notera les terribles bombardements de Tokyo et l'usage de l'arme nucléaire à Hiroshima et Nagasaki en août 1945, qui finissent par pousser le Japon à capituler. Donc au lendemain de la guerre, il est clair que la puissance des États-Unis est sans égale. Elle est manifeste autant sur le plan militaire, avec le monopole atomique, qu'économique. Deux tiers des stocks d'or mondial sont aux États-Unis, un territoire qui est intact, puisque aucun conflit sur le sol, si ce n'est à Pearl Harbor, à Hawaï. Et puis les diplomatiques, avec la mise en place à l'ONU de New York, le FMI à Washington. Donc comme en 1919, se pose alors la question de savoir ce qu'ils vont faire de cette puissance, les États-Unis. Est-ce qu'ils se replient à nouveau sur eux-mêmes, c'est-à-dire sur une politique isolationniste, ou ils acceptent, comme le souhaite Roosevelt et puis son successeur Truman après 1945, de jouer de nouveau un rôle international à la hauteur de leur statut? Eh bien, finalement, on rentre, à partir de 1945, dans la fameuse guerre froide. C'est-à-dire, les États-Unis prennent la tête du bloc occidental face au bloc soviétique, et à partir des années 60, la puissance américaine est remise en cause. Il faudra attendre les années 80 pour que les États-Unis s'imposent comme hyperpuissance. Et un petit morceau des Clash s'impose aujourd'hui.
Mama, mama, look there, your children are playing in the street again. Don't you know what happened down there? A youth of 14 got shot down there. The cocaine guns are jammed downtown. The killing clowns are blood money men. We're shooting for Washington, but it's again. As every cell in Chile will tell the cries of the tortured men. Remember the day and the day before, before the army. In the Santiago Stadium, ever died. It was Washington bullets again. And in the Bay of Pigs in 1961, Havana for the Playboy and the Cuban Sun. For Castro is the color, is a redder than red. Those Washington bullets won Castro dead. For Castro is the color.
routes musicales sur Couleur FM.
Dans le titre « Washington Bullets », Joe Strummer, le leader du groupe de Clash, dénonce l'impérialisme américain, soviétique ou chinois, leurs interventions dans de nombreux pays du tiers-monde ou non alignés. En effet, dans les premiers paragraphes de la chanson, les Clash dénoncent ici la mainmise des États-Unis sur l'Amérique latine. En effet, revenons un tout petit peu en arrière. Depuis le 19e siècle, les États-Unis ont pris la tutelle de l'Amérique latine. Et c'est ce qu'on appelle la doctrine Monroe, qui est élaborée dès 1823. Et donc, il fait de l'Amérique latine la chasse gardée des États-Unis. Et la guerre froide accentue ce phénomène. Les États-Unis soutiennent les régimes dictatoriaux dans toute l'Amérique latine, qui doivent faire barrage aux communistes et au communisme et garantir de nombreux intérêts économiques américains en Amérique latine. Par exemple, les grandes firmes agroalimentaires comme United Fruit, qui sont présentes dans tout le bassin caribéen. Les États-Unis, qui considèrent l'Amérique comme leur chasse gardée depuis le 19e siècle, font tout pour empêcher la diffusion du communisme sur le continent. Donc le communisme arrive à s'imposer malgré tout, soit par la force, c'est-à-dire soit on instaure le socialisme par les urnes, comme le tente Allende au Chili, qui constitue un très mauvais exemple pour Kissinger pour l'Europe. Donc il fallait absolument stopper tout ça. En effet, donc les États-Unis, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, décident définitivement de tourner la page de l'isolationnisme. Et ils assument pleinement les responsabilités qui leur confèrent leur puissance, c'est-à-dire afin d'éviter à l'avenir de replonger dans un nouveau conflit mondial. Ils deviennent les nouveaux gendarmes de ce monde. À partir de 1947 et durant plus de 40 ans, ils prennent la tête du monde occidental dans la guerre froide qui les oppose aux soviétiques et leurs alliés. Donc c'est au nom de la défense des libertés, de la démocratie et tout ça contre le communisme. Ils s'engagent dans une lutte de tous les instants, sur tous les terrains, sur tous les continents, en évitant toutefois un affrontement militaire direct avec les soviétiques, d'où le titre de guerre froide. Et donc l'objectif, c'est la politique du containment, c'est-à-dire on bloque par différents pactes, on évite l'avancée du communisme, voire on encercle les soviétiques. En fait, par exemple, ils vont se servir de l'OTAN, qui existe toujours aujourd'hui. Donc dans le même esprit, on a des exemples chantés par David Bowie avec le blocus de Berlin, mais aussi la Corée avec une guerre très meurtrière entre 1950 et 1953 qui donnera naissance aux deux États, la Corée du Nord et la Corée du Sud, que l'on connaît aujourd'hui. Bon, revenons aussi dans la notion de puissance. Les États-Unis, dans cette période-là, sont de très loin la première puissance économique mondiale, et ça sur tous les domaines. Industriels, ils produisent 43% de l'acier mondial dans les années 50, 65% des automobiles sont américaines. Au niveau commercial, la plupart des flottes sur les mers, à deux tiers sont américains. Les finances, tout se joue en dollars, surtout avec les accords de Bretton Woods. Et puis, cette économie est garantie par les institutions créées avec les États-Unis, que sont le FMI et la Banque mondiale, toujours aujourd'hui. En activité. Donc cette puissance économique sert de la politique de guerre froide. Puis je fais une petite impasse sur le plan Marshall qui permet la reconstruction de l'Europe, mais ça financé donc par les Américains. Et puis vient les années 60. Donc entre les années 60 et 80, la suprématie américaine est remise en cause. Elle est mise à mal, et c'est ce que nous chante la chanson de Joe Strummer. Elle est mise en cause, on met en cause cette superpuissance, et c'est celle, et c'est donc les Soviétiques qui vont la remettre en cause, et c'est la guerre du Vietnam entre 64 et 73 qui est une terrible défaite pour le containment américain et qui a des conséquences désastreuses sur l'image des États-Unis. Et là, la musique est riche sur la guerre du Vietnam, et j'ai choisi Edwin Starr, le fameux titre War.
Despise, 'cause it means destruction of innocent.
La guerre du Vietnam est le premier conflit au cours duquel les Noirs combattent dans les mêmes unités que les Blancs. Donc de très bons nombreux Noirs, pourtant majoritairement hostiles à ce conflit, sont envoyés au Vietnam. Il y a de nombreuses voix qui s'élèvent contre le conflit au Vietnam, Mohamed Ali, hein, qui refuse de servir au Vietnam en 67, mais aussi Malcolm X, hein, qui s'étonne de voir l'homme jaune tué par l'homme noir qui se bat pour l'homme blanc. Donc il n'est donc pas surprenant que cette guerre du Vietnam inspire la musique noire américaine. Et le titre War reste le plus grand hit de la carrière d'Edwin Starr. C'est une véritable chanson de protestation qui dénonce l'enlisement américain en Vietnam. Elle sort en 70, la chanson. Donc peu de temps après la version originale des Temptations. C'est une interprétation véritablement poignante, hein, qui confère à ce morceau une grande, grande force et puis qui met en écho avec les pas derrière des soldats. Donc les auditeurs n'y se trompent pas, hein, en 70, elle reste 3 semaines en tête du classement européen. Donc cette incertitude pour la puissance américaine, cette remise en cause avec la guerre du Vietnam, c'est pas le seul exemple, hein. On a ce bloc occidental qui se fissure dans les années 60. Le général de Gaulle, en France, remet en cause l'Alliance Atlantique, hein. Et il conteste l'hégémonie américaine. Par exemple, hein, en 66, la France quitte l'OTAN. Il ne reviendra que sous Nicolas Sarkozy. Sur le plan économique, le Japon, en pleine période de haute croissance et la future Union européenne depuis sa fondation, commence à concurrencer la puissance américaine. Mais c'est surtout en Amérique latine que les États-Unis s'enlisent, parce que la politique de Washington est de plus en plus mal acceptée. Et puis le meilleur exemple, eh bien, c'est à Cuba, avec Fidel Castro, qui fait basculer Cuba du côté du communisme. Donc en fait, pour lutter justement contre ces inspirations communistes, les États-Unis n'hésitent pas, comme au Chili en 73, à soutenir des coups d'État et à favoriser des dictatures d'extrême droite. Mais ils n'interviennent pas militairement directement. Ils font sauter des guérillas, quoi, tout simplement. Donc cette image, hein, de champion de la démocratie que veulent montrer les États-Unis, eh bien, s'effrite tout le long des années 60 et 70. Donc sur la scène internationale, eh bien, ça laisse le champ libre à l'expansion du communisme et par exemple à l'invasion de l'Afghanistan en 79 par les communistes. À partir de 1980, eh bien, les États-Unis demeurent malgré tout les vainqueurs de la guerre froide, et les deux présidences de Ronald Reagan entre 81 et 88 marquent le retour d'une véritable politique offensive qui fait de la lutte contre l'empire du mal que sont les communistes, de l'empire du mal, hein, comme dans Star Wars, la priorité absolue, et elle est dénoncée malgré tout par Bruce Springsteen de nouveau en 1984. Springsteen, Born in the USA en 1984. C'est une chanson au départ chantée contre la guerre du Vietnam et pourtant utilisée par le camp Reagan lors des élections de 1985. Reagan, lors de son dernier discours avant les élections, monte sur scène avec cette chanson et partage son bilan et la critique de Carter. Toutefois, cette chanson est une véritable critique de la politique expansionniste et impérialiste américaine. En effet, les deux présidences de Ronald Reagan marquent le retour d'une politique très offensive, on l'a dit, d'une lutte contre l'empire du mal. Les États-Unis accroissent leurs dépenses militaires, ils répondent systématiquement aux actions soviétiques et relancent la course aux armements. Parce qu'ils savent très bien dans ces années-là que l'URSS n'a plus les moyens financiers. Donc l'arrivée de Gorbatchev au pouvoir à Moscou va modifier la donne. Il comprend la nécessité, Gorbatchev, de réformer le système soviétique. Il négocie avec les États-Unis des accords de désarmement nucléaire. Ce sont les accords de Washington en 87 et START en 91. Et puis, on connaît la suite de l'histoire. C'est la chute des régimes communistes en Europe de l'Est entre 89 et 90. C'est la réunification de l'Allemagne. C'est l'éclatement de l'URSS en 91 qui laisse alors les États-Unis sans principal rival, sans rivaux. Ils sortent donc vainqueurs de la guerre froide, et ça de façon pacifique. Leur concurrent, lui, est effondré. Donc la victoire des États-Unis, c'est aussi une victoire des valeurs. C'est le libéralisme économique qui triomphe dans les années 80, c'est le capitalisme qui va gagner l'Europe de l'Est, la Chine, même avant des réformes politiques. La démocratie progresse très difficilement en Amérique latine, mais elle progresse. Et les États-Unis ont toujours une vision claire de leurs intérêts. Ils continuent à soutenir des régimes non démocratiques qui leur jugent nécessaires, comme par exemple au Moyen-Orient, mais aussi l'Égypte ou les monarchies pétrolières. Donc la puissance des États-Unis, à partir de 1990, semble universelle et incontestée et au maximum de leur apogée. Et pourtant, l'effondrement soviétique en 91 laisse les États-Unis sans rival sur le plan géostratégique, une véritable suprématie absolue dans le domaine militaire, dans le domaine économique, et puis on n'oublie pas le poids déterminant du rôle du dollar. L'économie américaine défend le capitalisme, c'est-à-dire le libre-échange et la déréglementation, et les États-Unis deviennent à partir des années 90 une véritable plaque tournante du commerce mondial et l'acteur principal d'une mondialisation qui ne fait que s'accélérer. Les États-Unis sont de plus en plus dépendants de leurs fournisseurs de pétrole et de leurs créanciers, et donc d'où les différentes actions qu'on pourra trouver au Moyen-Orient. Alors, ils renouent, les États-Unis, à partir des années 90, renouent avec l'idéal du président Wilson et travaillent, en fait, petit à petit, avec la scène internationale, c'est-à-dire sur le droit international. Et là, se manifeste sur la guerre en Irak et l'invasion du Koweït dans les années 90-91. C'est une intervention militaire qui se fait de façon multilatérale. Et donc là, ça, c'est nouveau. C'est le multilatéralisme, les États-Unis interviennent avec le cadre de l'ONU. Ils réinterviendront pour la guerre en Bosnie en 1995 et avec la tentation de la paix israélo-palestinienne dans les années 90, ça de façon multilatérale. Donc ça, tout ça, c'est nouveau. Et on continue, ils signent aussi l'interdiction des essais nucléaires en 96, le protocole de Kyoto. On a lancé, la puissance américaine semble véritablement le pilier central d'un nouveau multilatéralisme. Et pourtant, il y a une tentation de l'unilatéralisme et de ce retour virulent de l'impérialisme américain. Et je vous propose ce petit titre sucré sorti en 1991.
Fire! free. It's caged and frozen still. There is no other pill to take. So swallow the one that made you ill.
Je vous propose de terminer ce numéro par le titre d'REM, Final Straw, une chanson très virulente, très directe, chantée dans les années 2000, un véritable uppercut dans la mâchoire de George W. Bush, et une vraie critique de la guerre et de la position de l'impérialisme américain dans les années 2000. On termine par se poser cette question: est-ce que les États-Unis, au XXIe siècle, resteront la première puissance mondiale, ou bien d'autres puissances sont en train de prendre le relais? À suivre.
As I raise my hand to broadcast my objection, as your latest triumph draws the final straw, who died and lifted you up to perfection, and what silenced me is written into law. Can't believe what circumstances throw me. Then I turn my head away. If I look, I'm not sure that I could face you. Not again. Not today. Not today. If hatred makes a play on me tomorrow, forgiveness take a backseat to revenge, there's a hurt down deep that has not been corrected, there's a voice in me that says you will not win. And if I ignore the voice inside, raise a half glass to my home, but it's there that I am most afraid of forgetting. It doesn't hold, it doesn't hold. Now I don't believe it, I never did, that two wrongs make a right, but the world will fill with the likes of you. Tears that have been shed, it's knowing now where I am weakest, and the voice in my head, in my head,
for love with one condition, with conviction. Tell me why, tell me why. Tell me why, look me in the eye. Tell me why.
Maintenant. Où on va maintenant?
J'en sais rien, tu nous emmerdes.
N'empêche que j'aimerais bien savoir où on va, comme ça. Simple curiosité.
Mais il t'a dit qu'il en savait rien, que tu l'emmerdais, alors...
Ne fais pas de soucis, vieux. Dans la vie, tout s'arrange. T'as jamais de vraie raison de se biler. Ils peuvent pas nous faire un trou au cul, on en a déjà un.
On va quand même pas rouler comme ça, droit devant, sans savoir où. Jusqu'à ce que le réservoir soit vide.
Pourquoi pas?
Les routes musicales sur Couleur FM.